Vous écoutez
RMC. RMC, 20h-22h, Génération After.
Karine Galli.
21h44, en direct du studio Roland Courbis, avec David Glusman, avec Elton Mokolo, avec vous sur le WhatsApp RMC 06 12 424 424 et aussi au 32 16. On vous attend, une libre antenne. On va parler des promus, qui est le mieux armé, 3 Le Mans, et puis vous pouvez nous parler de votre club qui va commencer sa saison à partir de vendredi, on le rappelle, sur RMC. Est-ce que vous êtes confiant, est-ce que vous êtes inquiet, ou quel renfort vous espérez voir signer dans votre club de cœur? Messieurs, des petites informations aussi. Axel Witsel, qui s'est confié en longueur au micro de RMC Sport. Il a signé chez les Aiglons, vous le savez. Maxime Tillette l'a rencontré. Le milieu belge a 37 ans. Il a envie d'être un leader. On rappelle qu'il est arrivé libre, qu'il était à Gérone l'an dernier. Le club est descendu en deuxième division, mais il a beaucoup joué avec le club espagnol. Il a cette capacité de jouer en défense centrale ou au milieu de terrain. A priori, ça serait plus au milieu cette saison, parce qu'en plus, il doit compenser malheureusement la très grave blessure d'Abergel. Witsel, est-ce que c'est une bonne idée? Parce qu'on fait déjà des comparaisons avec Dante. Parce que il y a l'âge et il y a la possibilité qu'il devienne un leader. Et parce que lui aussi a parlé évidemment de Dante, ancien coéquipier d'ailleurs de Witsel.
Tu te souviens quand je me suis un peu moqué de Roger Ricord lors d'une émission et tu m'as soufflé dans les bronches, et bah t'avais complètement raison, parce que Gauthier Hein, Axel Witsel, avant Laurent Abergel, vu les moyens de Nice, moi je trouve ça très intelligent. Voilà, c'est 3 recrues très pertinentes, avec une identité francophone Ligue 1 qui correspond complètement au projet de Pantaloni et Nice. Et voilà, pour l'instant, c'est pertinent.
Witsel, on va l'écouter, le Belge, au micro de Maxime Tillette aujourd'hui.
Je pense plus au milieu de terrain. Donc la saison dernière à Girona, j'ai joué tous les matchs à ce poste-là en tant que numéro 6. J'ai toujours ce rôle un peu d'hybride, parce qu'à l'Atlético, j'ai joué en tant que défenseur central, mais plus avec une défense à 3. Donc c'est vrai que je peux faire les deux. Après, je me sens toujours plus à l'aise au milieu de terrain. Le 3/4 de ma carrière, j'ai toujours joué à ce poste-là.
Par rapport à son âge, le milieu de terrain, c'est un poste très important. Est-ce que tu penses que c'est mieux qu'il joue en sentinelle? Est-ce que tu penses que c'est mieux qu'il aide en défense? Parce que, il y a aussi eu beaucoup de soucis la saison passée à Nice, avec des problèmes défensifs, avec le pauvre Dante qui a été beaucoup blessé, qui là, maintenant, a pris évidemment sa retraite.
Non, mais j'oublie pas aussi qu'il y a eu des problèmes au milieu de terrain.
Il y en a eu partout, de toute façon.
Non, mais il y avait des problèmes au milieu de terrain. Et moi, je pense que, déjà, par rapport au timing de son arrivée, il arrive à quelques jours de la reprise de Ligue 1, mais aussi par rapport au caractère du 11 de départ. Non, faut le stabiliser au milieu de terrain avant d'envisager une expérience en défense centrale. Et Witsel, par rapport à sa saison du côté de Girona, même s'il faut rappeler, il est descendu avec Girona, moi j'ai envie de le voir davantage au poste de milieu de terrain.
Enfin, il est descendu, moi Tsigankov, je le prends dans pas mal de clubs de Ligue 1 tous les jours.
Tsigankov, ce qui est terrible, c'est qu'il est hors d'atteinte pour Nice.
Non, mais complètement. Non, mais surtout que en charnière centrale, il y a quand même pour l'instant du monde. Il y a Ndiaye Mbaye, il y a Antoine Mendy, il y a Abdelmoumen qui va revenir.
Enfin, Youssouf, à la base, il joue au milieu, hein.
Oui, tout à fait. Donc, mais là, il a joué essentiellement dans une défense à 3.
Et on espère qu'il va retrouver d'ailleurs son niveau aussi.
Central gauche aussi. Donc non, il y a déjà du monde. Pour moi, c'est un profil super intéressant.
Des informations concernant Nice tout de suite. La bonne nouvelle, c'est que Nice aurait trouvé un accord avec Hambourg pour son attaquant Terem Moffi. Donc l'idée, c'est qu'évidemment Moffi parte en Allemagne, ce qui pourrait permettre en plus aux Niçois d'avoir un petit peu plus de sous pour recruter Eli Wahi, parce que tu en as parlé juste avant. C'était une belle histoire d'amour de quelques mois, mais en tout cas, Wahi et Nice, Wahi et le public, Wahi et Claude Puel, même s'il n'est plus là, ça avait fonctionné. Donc, ils veulent absolument faire revenir le buteur. Terem Moffi fourre à Nice. Hein.
Ah bah oui, alors là, mais c'est un raté monumental.
Il avait coûté une tonne, hein.
Mais il avait coûté une tonne. À l'époque, c'était justement le cadeau de la mariée pour avoir une envolée de Nice, notamment par rapport à ses objectifs.
Et c'est quoi, 26 millions, non?
C'est plus, c'est 32. 32. Et c'est plus. Et c'est exactement l'inverse qui s'est passé entre des résultats collectifs qui ont été décevants, des performances individuelles qui ont été parfois, qui ont été proprement catastrophiques.
Il était blessé.
Sa blessure a vraiment tué. D'esprit, donc c'est un mariage raté entre les deux parties, et donc c'est pour ça qu'il faut y trouver une porte de sortie. Et moi, j'aime beaucoup cette idée du retour de Wahi, parce qu'il a été impacté émotionnellement par ce court passage du côté de l'OGC Nice. Il en avait besoin pour se relancer.
Pour moi, Moffi, c'est Ineos. Ça résume absolument le passage Ineos à l'OGC.
T'as raison, si tu veux faire un symbole.
Ah oui, d'accord. Pour toi, c'est le club qui, soi-disant, à un moment, voulait investir, voulait avoir une équipe compétitive, après, donc avait dépensé beaucoup de sous, mais finalement, le mariage n'a pas marché.
À l'époque, il y avait aussi Marseille qui était sur les rangs, et c'était l'un des joueurs bankable du côté de la Ligue 1, et on aurait pu penser que ça aurait été bien pour que Nice puisse continuer à grandir, et ça ne s'est pas passé comme prévu.
20 buts en 4 ans. Alors évidemment, il y a la grave blessure, mais c'est vraiment des statistiques faméliques.
Après, il a des buts marquants. Il a un but notamment lors de la victoire au Parc sous Farioli.
Ouais. Quand à un moment donné, il se joue de, je crois, c'est Skriniar, et il met un super but.
Du gauche, ouais.
Ouais, du gauche.
On pas, vendredi c'est, soir.
Septembre 2023, ouais.
Un vendredi soir, ouais.
D'accord. On dirait l'agent, tu sais, qui te revend son joueur.
Non, pas du tout. Mais
toi, t'as une mémoire d'éléphant. Les comptes
Boccolo
ne sont pas bons, là, les garçons. Hein, pas bons du tout. Là,
comment ça, les comptes ne sont pas bons? Évidemment que les comptes ne sont pas bons du côté de Mofi.
Clem qui nous dit, est-ce qu'il y a des bonnes affaires pour les clubs de Ligue 1 en Ligue 2? Pourquoi ils ne vont pas chercher du côté de Saint-Etienne? Mais Saint-Etienne ne vend pas.
On a eu ce débat avec David. Pour la classe moyenne de Ligue 1, ça coûte trop cher.
Ah bah oui, Saint-Etienne ne vend pas, il garde ses éléments.
Non mais ça coûte trop cher.
Taoufik Ben Taïeb, qui va partir pour 4 millions, parmi les meilleurs joueurs de Ligue 2, il est trop cher.
Ben oui,
Giovanni Verzini, qui est à International Espoir, à Pau, qui est un attaquant ultra prometteur.
T'as évoqué le cas Bardelli,
Ragoubert, qui était en Ligue 2. C'est trop cher.
Mais on avait vu Stas hein, aussi. Hein.
Mais Saint-Etienne a refusé des offres. On connaîtra jamais les montants, mais bien au-dessus de 20 millions d'euros pour Stassin l'année dernière.
Ah oui, du PFC notamment.
Donc Saint-Etienne qui a gagné, on rappelle, ses deux premiers matchs de Ligue 2 dans une entame de saison qui est très bonne, aujourd'hui a les moyens de garder ses joueurs et évidemment il y a des clubs de Ligue 1 pour la majorité qui n'ont pas d'argent à mettre.
Lassine Meignan-Pavé, ça va être 10 millions plus
et à l'auditeur qui vient d'envoyer le message, je conseille de regarder les clubs entre la 12e et la 18e place, rayon Mercato arrivé. Et les investissements, il va tout de suite comprendre.
Gaëtan qui nous a envoyé.
Tu vas tout de suite comprendre sur les investissements. Si tu as 5 millions d'euros en dépenses nettes, c'est déjà très bien.
Et tu te souviens, David Ventier qui nous disait que l'investissement sur Arthur Piéfort, le milieu de Westerlo, c'était un investissement conséquent. Et on est déjà en fait dans cet ordre de grandeur, autour des 5 millions d'euros.
On accueille Valentin, supporter angevin, qui est avec nous au 32-16. On rappelle qu'Angers commence une nouvelle aventure avec un nouvel entraîneur. C'est Stéphane Gilly qui a rejoint le club avec un mercato vraiment intéressant d'ailleurs.
Contrairement
à l'an dernier où Angers n'avait pas pu recruter par rapport à la DNCG. Là, c'est vrai que c'est assez intéressant. Bonsoir Valentin, merci d'être avec nous.
Bonsoir à tous.
Salut Valentin.
Salut Valentin.
Nous, ça va très bien. Et toi?
Bah écoutez, moi ça va bien. Hein. Mon club s'est maintenu en Ligue 1 l'année dernière.
Tranquillement.
Avec autorité.
Avec autorité, et du coup, j'ai validé mon défi et mon périple de faire Angers-Lourdes à pied.
Ah mais oui, mais bien sûr, mais
bien sûr, Valentin. C'est Angers-Arsenal.
Oui.
Tu nous as appelé plusieurs fois sur RMC, t'es un fidèle auditeur, et t'avais effectivement ce challenge à relever. Comment ça s'est passé?
Ça s'est passé nickel, je suis parti de lundi de la Pentecôte, j'ai fait Angers-Lourdes en 18 jours, soit 31 km et demi par jour, soit 567 km.
Non mais c'est magnifique.
En plus, Valentin, t'as fait
la Dallange-Vine, totalement ça.
C'est exactement
bien
ça.
Bien sûr.
Ah oui. C'est le Pierrick Capel de la bicyclette.
Mais oui, c'est un hommage à Pierrick Capel qui a pris sa retraite et qui devient d'ailleurs, j'ai vu, consultant sur Ligue 1+.
Consultant pour Ligue 1+, exactement.
Ouais. En plus, c'est une belle journée parce que t'es en passe de très bien remplacer Jacques Écommier en allant prendre peut-être un des meilleurs latéraux gauche de Ligue 1, Joseph Kaloulou, la grande lignée des
Kaloulou. La famille Kaloulou, mais c'est quand même incroyable.
Pierre, Gideon, Aldo.
Ils sont quatre.
Ouais, c'est Pierre, Gideon, Aldo. Joseph, voilà.
Et évidemment, le plus connu, c'est Pierre.
C'est Pierre.
Valentin.
Je dirais Gideon pour d'autres raisons évidentes.
Ah, parce qu'il joue avec.
République démocratique du Congo. demi-finale.
Ton cœur, quoi.
Oui, demi-finale. Bah non, je fais F actuellement. Qui a fait demi-finale de Coupe d'Afrique des Nations dans la famille?
Bah, c'est Gideon.
C'est vrai.
Oui, c'est vrai.
Il a raison.
Oui.
Mais
qui a joué la Coupe du Monde? Je vous le donne en
ligne. C'est inarrêtable.
C'est
génial. Il va déborder sur l'after, là.
Valentin, par rapport à la saison d'Angers, est-ce que tu es assez serein par rapport à ce changement d'entraîneur? On a l'impression qu'il colle bien à l'ADN d'Angers. Il y a du temps, c'est familial. On l'a vu comme invité, d'ailleurs, sur RMC cet été. Il avait l'air très content de ce nouveau challenge. Le premier match, on rappelle, ça sera contre Lille.
C'est ça, le premier match contre Lille dimanche. Oui, je suis assez content de ce que j'ai vu au niveau du recrutement cet été. On a pris ce qui était de mieux, je veux dire, au niveau du gardien de but. Alors évidemment, hein, si on me demande à choisir, j'aurais préféré garder Hervé Kofi. On remercie évidemment la DNCG qui l'année dernière refusé le prêt avec option d'achat à 500 000 euros.
Et la Bolascari aussi.
Et la Bolascari également, oui, exact. Le plus drôle avec la Bolascari, c'est quand même qu'il a fait un entraînement, que le maillot est sorti, et il y a un supporter angevin, c'est pas moi, qui avait...
On se souvient, ouais, de cette histoire.
En plus, la Bolascari, en flocage, il a pas dû payer de balles, tu vois.
Non, celle-là, elle est pas mal, quand même, pour que deux jours après, le joueur parte. Et évidemment, quand on a joué contre Brest, la Bolascari a marqué contre nous. Ça l'a bouclé. Je suis content, c'est de la confirmation et du retour de Van den Bomen. Ouais. J'espère que cette année, ça va être plus intéressant. Je pense que l'année dernière, il était en manque de temps de jeu. C'était un petit peu compliqué.
Ouais, sorti d'une période compliquée à Amsterdam.
À l'Ajax. Donc là, en plus, il arrive libre. Donc c'est un très bon coup pour nous. Notre attaquant qui vient de Braga en prêt également, c'est un très bon coup.
Moi, j'aime bien.
Je trouve que c'est un très bon coup. Donc ça va être intéressant. Le style de jeu va être, je pense, plus offensif que ce qui était le cas du style du jeu.
Oh bah c'était pas mal quand même avec du jeu.
Le style du jeu.
Oui, bah oui, c'était calculé évidemment. Donc, mais je pense que le jeu va être encore un petit peu plus porté offensivement parlant. De ce que j'ai vu des matchs de préparation, alors moi j'ai vu que le match de ce week-end contre le Paris FC.
D'ailleurs, très bonne préparation. Vous avez gagné tous vos matchs sauf un.
Sauf un contre Le Mans, exact. Des retours que j'ai eu de supporters, c'est vrai qu'on est très porté vers l'offensif. Alors après, c'est de la préparation, donc c'est normal aussi de mettre des choses en place. Donc on va voir. On va voir également sur les départs. On sait que là, Jacques Écomier va très très probablement partir avec.
Vous allez bien le vendre, hein.
Parce que oui, on va bien le vendre, mais surtout c'est que quand on l'a récupéré, il y avait beaucoup de supporters de Bordeaux qui nous disaient que Écomier n'était pas un bon joueur.
Dont moi. Énorme surprise.
Il y a pas que toi.
Énorme surprise.
Il y a des personnes qui se reconnaîtront.
Exactement. Donc on verra. Et la grosse incertitude également, c'est le départ ou non de Begdim. Lui a demandé à partir. Est-ce qu'il va partir ou pas? J'espère que non, parce que c'est un très très bon joueur.
Super joueur. Et le petit Bernon, comment tu l'as trouvé en préparation, qui est en prêt à Lens? Parce que c'est vrai qu'il était assez prometteur sur le côté.
J'ai eu des bons retours, des échos que j'ai eu de la part de copains qui eux ont pu faire certains matchs de préparation. J'ai eu des bons retours. Donc à voir. Après, est-ce qu'il va être titulaire ou pas? Parce qu'il va y avoir le retour de ce bail qui n'a pas fait un match de préparation à part un petit peu de temps de jeu ce week-end contre le PFC. À voir s'il sera titulaire ou pas. Mais des échos que j'en ai eu très intéressants, et également un joueur peut-être à suivre, c'est le petit Diatta qui était au milieu de terrain et qui a marqué ce week-end.
Il était déjà apparu en Ligue 1 en fin de saison, non?
Il était apparu, alors je dis peut-être une erreur, mais sur le dernier match l'année dernière contre Brest, mais je peux me tromper, qui a l'air assez prometteur. D'ailleurs, dans la rotation, il est même passé devant Marius Courcoul, qui du coup est parti là en prêt en Belgique à la Louvière. Donc il va être intéressant à suivre. Il va y avoir également après...
T'as Prosper Peter aussi qui était déjà apparu.
C'est ça, qui lui va être, je pense, cette année numéro 2, vraiment. L'année dernière, il y avait une alternance entre Peter et Machine en début de saison, et après avec Ouyalipou quand il est arrivé.
Il était prêté d'ailleurs, Leroy Machine, je crois.
Oui, il est prêté aux Pays-Bas avec option d'achat.
Et Aruna, c'est Jibirin?
C'est Jibirin Aruna.
Jibirin, c'est ça.
Qui a été très intéressant en début de saison, qui est d'ailleurs pourrait partir. On sait que Bruges avait déjà essayé en janvier l'année dernière et est revenu à nouveau cet été pour essayer de le récupérer. On verra, il avait été beaucoup blessé après en deuxième partie de saison, il avait très peu joué. Mais il avait été prometteur l'année dernière quand il était rentré. Donc il avait mis notamment un très beau but lors du match contre Nantes à Angers où on avait gagné 4-1. Donc il y a des choses intéressantes à voir. Le retour de Belkebla fera du bien également. Là pour l'instant il est blessé,
prolongé en plus.
Ouais. Et ça c'est une belle surprise parce que je ne m'attendais pas à ce qu'il reste.
Ça montre à quel point le club bosse bien aussi, parce que t'as la capacité à inscrire dans la durée Belkebla.
Laurent Boissier, va falloir le mettre en avant, hein, Laurent Boissier, parce que c'est vrai qu'il a peut-être pas un nom ronflant. Lui il bosse pas avec la data, il bosse qu'à l'œil et au réseau, et finalement il fait du très bon boulot.
Et il fait du bon travail. Et on rappelle qu'il connaissait Stéphane Gilly, et c'est aussi comme ça que l'arrivée de Stéphane Gilly a été assez rapide et fluide. Merci beaucoup Valentin d'avoir été avec nous. On te souhaite une très bonne saison. On rappelle, premier match, réception de Lille. Messieurs, on a été pris par le temps, donc un mot, parce que je voulais qu'on parle des promus, mais le problème c'est que vous êtes bavard, mais vous êtes excellent, donc on n'a plus le temps.
En tout cas,
le promu, il y en a deux, trois, champion de Ligue 2, derrière Le Mans. Le Mans, il y a des moyens. Il y a eu évidemment beaucoup d'informations autour du Mans parce qu'ils ont réalisé affaire nationale Ligue 2, Ligue 2, Ligue 1, parce qu'il y a aussi des gens connus qui sont des investisseurs dans le club, Novak Djokovic, Thibaut Courtois, etc. Pour vous, quel est le promu le mieux armé cette saison pour essayer de se maintenir entre Troyes et Le Mans ?
Le Mans.
Le Mans.
Le Mans, momentum, j'adore Patrick Vidéra, même si j'aime bien...
Très bon coach.
J'aime bien Stéphane Dumont qui a fait un travail remarquable à Guingamp et à Troyes, mais je ne comprends pas comment Troyes peut commencer cette saison avec une équipe plus faible que l'année dernière.
Il y a trois recrues, on rappelle, à Troyes, mais vous aurez l'occasion évidemment d'en parler.
Le Mans, ça peut faire jurisprudence Clermont 2022. Une équipe voilà euphorique et qui s'inscrit dans la durée du côté de la Ligue 1.